Épilogue. Victoria. Nous avons trouvé une école pour Evan. Un établissement dans le sud du New Hampshire qui accueille les élèves à plein temps dans un environnement familial. Les enfants vivent dans de vraies maisons avec des éducateurs spécialisés qui leur servent de parents de substitution. Sur le campus, il y a un lac, d'immenses jardins et des bois alentour. Le programme associe un emploi du temps très structuré avec beaucoup d'activités en extérieur qui permettent aux enfants de respirer au grand air, de s'initier au jardinage et de profiter des pouvoirs bienfaisants de la nature. L'école a même recours à la méditation pour que les enfants agités apprennent à se détendre tout seuls. Evan est inquiet, mais pas foncièrement opposé. Nous pourrons lui rendre visite le week-end. Si son comportement s'améliore, il aura le droit de rentrer à la maison pour les vacances. La situation commence à paraître gérable. D'accord, il prend des médicaments. D'accord, il va quitter la maison. D'accord, beaucoup d'autres occasions d'apprentissage nous attendent. Mais l'école est magnifique. Evan est plus calme. Et notre famille est en voie de guérison. Le procureur a décidé de ne pas engager de poursuite contre Evan. Notre avocat a plaidé qu'Evan avait été indûment influencé par les instincts violents, désormais évidents, d'Andrew Lightfoot. Faire un procès à un enfant qui venait de se faire enlever par son guérisseur spirituel risquait d'être mal perçu par la presse, et l'affaire s'est donc tranquillement conclue par un non-lieu. Après une semaine passée au service des soins intensifs, quelques réglages concernant son traitement médicamenteux et la mise au point d'une stratégie à long terme, Evan a reçu l'autorisation de rentrer à la maison pour y terminer l'été avant de partir pour sa nouvelle école. Ce qui m'a donné le temps de me rétablir, et d'aller faire des courses de rentrée avec ma fille. La semaine dernière, Chelsea est venue nous voir deux fois, Evan et moi, avec Michael en guise de chaperon. Surexcité, Evan s'est claqué la porte d'entrée sur les doigts, après quoi il s'est emmêlé les pieds et a envoyé sa sœur valser contre la télé. Mais Chelsea s'est accrochée, je me suis accrochée, Michael s'est accroché. Plus nous restions calmes, plus Evan se calmait. À la fin de la deuxième soirée, nous avons même réussi à faire un jeu de mime en famille. Chelsea a gagné. Quand je l'ai prise dans mes bras pour la féliciter, elle s'est cramponnée à moi en pleurant. Alors j'ai pleuré avec elle. Il y a des fois où on a juste besoin de ça. Il y avait des affaires plus urgentes à régler, m'a expliqué Michael, et j'ai cru voir dans ses yeux un peu de cette ancienne flamme familière. Je sais qu'il l'a senti dans les miens. Je projette de me relancer dans la décoration intérieure, d'apprécier chaque seconde que je passe avec mes enfants, d'être de nouveau moi-même, indépendante, belle et forte. Et je crois que si je fais ça, Michael n'a aucune chance. Didi. Didi adorait qu'une affaire se dénoue. Andrew Ficke, alias Andrew Lightfoot, était mort sur les lieux. Il s'était vidé de son sang après s'être sectionné l'artère fémorale. Mais les pièces à conviction ont la vie dure et ils en recueillirent en abondance. Un taser militaire fut retrouvé sur le siège passager de sa voiture. Les examens conclurent que le voltage correspondait à celui qui avait été employé pour agresser Patrick Harrington, Hermès Laraquette, Daniel Burton et Victoria Oliver. Le taser contenait également des cartouches spéciales, qu'il était apparemment possible de se procurer Dieu sait comment et qui envoyait du courant dans les deux filins de l'appareil sans laisser de confetti d'identification. Une fouille de la villa d'Andrew à Rockport mit également au jour un paquet de liens de serrage de même taille, même couleur et même résistance que ceux qui avaient été utilisés pour ligoter Daniel Burton et la famille Oliver. Et puis il y avait le sac de voyage dans le coffre de sa voiture qui s'était illuminé comme un feu d'artifice quand on y avait cherché des fluides corporels. Les analyses avaient révélé trois groupes sanguins différents, très certainement une contamination croisée, le sac ayant contenu des vêtements maculés de sang de plusieurs victimes. On savait qu'Andrew Lightfoot les connaissait toutes. La police ne lui avait trouvé aucun alibi pour les nuits des meurtres, et les caméras de surveillance avaient filmé son arrivée à l'hôpital le soir de la pendaison de Lucie. Les experts en incendie avaient découvert 15 bombes fumigènes dans le système de ventilation. L'identité judiciaire avait relevé les empreintes d'Andrew sur plusieurs d'entre elles, ce qui le rendait directement responsable de l'évacuation d'urgence. Pour Didi, l'affaire était entendue. Andrew avait pris son histoire d'espace interstitiel un peu trop au sérieux et s'était persuadé que le sort de l'âme de son père comptait davantage que l'existence corporelle d'un certain nombre d'individus. Il avait assassiné A, croyant sauver B. Ou plus probablement, il avait simplement voulu terroriser Daniel Burton qui l'avait éconduit. Naturellement, Alex n'était pas d'accord. C'était un guérisseur spirituel. Il faisait du bon boulot d'après ses clients. Ses adeptes, ses clients. Un chaman respecté ne se transforme pas du jour au lendemain en boucher. Il était omnubilé par Daniel, elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Quelle dose de rejet un homme peut-il supporter? D'après le témoignage de Daniel, il voulait qu'elle sauve l'âme de son père. En quoi tuer deux familles entières pouvait-il y contribuer? En rien, reconnut Didi. Il n'était pas très doué pour trouver des solutions aux problèmes. D'ailleurs, c'est la définition même de l'assassin. Le mec veut divorcer, mais sans perdre la moitié de ses biens, alors il tue sa femme. Est-ce qu'il était obligé de la tuer? Est-ce qu'il avait d'autres moyens de mettre un terme à son mariage tout en protégeant son compte en banque? Bien sûr. Mais les assassins ne voient pas d'autres solutions. C'est pour ça qu'ils assassinent. Il se trouvait dans le bureau de Didi. Les autres membres de la cellule d'enquête étaient partis. Le dossier était bouclé, sans compter qu'ils avaient déjà entendu cette conversation. Mais cela n'arrêtait pas Didi et Alex. « Ah oui ?» continuait ce dernier. « Et à quel moment de ses études de commerce et de chamanisme a-t-il appris à dézinguer toute une famille ? À tuer une femme d'un seul coup de couteau et un adolescent athlétique ? Sans parler du cœur de pierre qu'il faut avoir pour poursuivre une petite fille qui hurle dans un couloir et l'entraîner vers sa mort ? Ou abattre une fillette sur un lit de chien ? Ou étouffer un bébé dans un berceau ? Ça prouve seulement à quel point il avait compartimenté son existence ? Imagine, cet homme avait deux vies, Ficke, l'expert en gestion de portefeuille, et Lightfoot, le sauveur d'âme. Ficke n'était pas franchement sympathique. Il baisait les femmes et entubait ses amis, tout ça au nom de la haute finance. Et voilà qu'un jour, il lui prend l'idée de se métamorphoser en doux et gentil Lightfoot. Peut-être qu'au début, il a sincèrement cru qu'il avait sauvé la vie de son ami. Vu ce que certains nous ont dit de son travail, peut-être qu'il a vraiment fait le sorcier. Mais réfléchis un peu. Guérir lui donne un sentiment de puissance. Et en deux temps trois mouvements, les bouffées d'adrénaline que lui procure le New Age réveillent ses anciens instincts prédateurs. Andrew se met à frauder l'État, à profiter de mères dépassées, à nourrir son égo. Lightfoot redevient Ficke, sauf que cette fois-ci, il est armé d'un discours mystico-ésotérique pour manipuler les masses. Il voulait Daniel. Exactement. On en revient toujours à Daniel. La petite fille que son père avait sauvée. La femme qui refusait malgré tout de faire ce qu'Andrew lui disait. Andrew la voulait, et Andrew obtenait toujours ce qu'il voulait, ou alors personne ne l'obtenait. Où l'on voit qu'une femme têtue peut pousser un homme à bout. « Ce n'est pas donné à tout le monde ?» répondit modestement Didi. « Bon, l'affaire est close, le coupable est mort, il est 7 heures du soir, j'ai pas dormi depuis 4 jours, pourquoi on est encore au bureau ?»« Parce que tu n'as pas dit oui. »« À quoi ?»« Au poulet au Marsala que j'ai l'intention de te préparer. » Avec du pain italien et une bouteille de Chianti. Y aura du tiramisu au dessert? De la glace vanille faite maison. Didi le regarda. Alex la regarda. Elle soupira, retira son beeper, le posa soigneusement sur son bureau. Alex, ramène-moi à la maison. Daniel. D'après le rapport final de la police, Andrew Lightfoot serait devenu fou et aurait assassiné 12 personnes dans l'espoir de retenir mon attention et de sauver l'âme de son père. Ils ont mis ça au conditionnel parce qu'assassiner 12 personnes est une méthode compliquée pour sauver une âme. Ou alors c'est pour ça qu'ils ont décrété qu'il était fou. Je ne les ai pas contredits, mais j'avais ma propre opinion sur le sujet. Rien que je ne puisse prouver... Rien que j'aurais même cru il y a un mois, pour tout dire. Mais je travaille auprès d'enfants, et les enfants sont de puissants révélateurs de la nature humaine. À une époque, les enfants adoraient Andrew. Il avait une bonne influence sur eux. Même si je ne me considérais pas comme une adepte de l'ésotérisme, j'avais été témoin de certains résultats. Je ne pense pas qu'un fou aurait pu aider ses enfants, particulièrement ceux qui sont hypersensibles. ils auraient perçu cette corruption. Je pense qu'Andrew a été Andrew autrefois. Et qu'à un moment donné de son exploration des sphères célestes, il a rencontré une énergie négative plus puissante que lui. Il a rencontré l'âme pervertie de mon père et espéré en apprendre davantage sur son propre père grâce à lui. Malheureusement, l'esprit de mon père s'est servi d'Andrew pour me pourchasser et finir ce qu'il avait commencé 25 ans plus tôt. Il y a des choses que je ne saurai jamais. Quand il m'a porté vers la maison d'Evan, Andrew m'a encouragé à ouvrir mon cœur, à trouver la lumière. Était-ce le véritable Andrew qui réussissait à s'exprimer, qui voulait m'aider à survivre? Ou bien mon père pensait-il simplement que s'il arrivait à me faire venir dans les espaces interstitiels, il pourrait me faire du mal à moi aussi? Je ne sais pas. Est-ce que mon père est retourné dans l'abîme, où il attend en ce moment même sa prochaine existence charnelle? Je sais que je l'ai vu cette nuit-là. Ses yeux luisaient dans le visage d'Andrew. Et je sais que j'ai senti la présence de ma mère, de Nathalie, de Johnny et même du shérif Wayne. Ou peut-être que j'avais simplement envie de les sentir. Peut-être que c'est l'illusion de les voir qui m'a donné cette force. Cela dit, j'ai retrouvé le pistolet. Aucun doute que cela plaide en faveur d'une intervention de mon père. Ou alors j'ai vraiment eu beaucoup de nez. Je passe d'une hypothèse à l'autre, en femme sceptique qui découvre sur le tard, à 34 ans, qu'une partie d'elle-même a envie de croire. Je me sens changée ces derniers temps. Je me souviens plus souvent de ma famille, et avec moins de douleur. J'ai perdu ma mère et mes frères et sœurs, et pourtant ils sont encore avec moi. Peut-être qu'ils sont réellement devenus des anges, ou peut-être que j'ai enfin parcouru les 5 étapes du deuil. Je ne sais pas. Et Andrew, en imaginant que mon père ait pris son âme en otage, est-ce que la fin de son existence charnelle l'a enfin libéré? Ai-je un jour demandé à Evan. Il m'a répondu qu'Andrew était un ange et qu'il avait parlé avec lui la nuit précédente. Il n'avait pas l'air de s'en faire, alors je n'ai pas insisté. La parole d'Evan me suffit. L'État a procédé à l'inhumation de Lucie. Nous avons fait une collecte pour acheter une stèle. J'ai demandé qu'elle soit sculptée en forme de chat endormi, même si le vendeur de granit m'a prise pour une cinglée. Après l'enterrement, un immense arc-en-ciel est apparu à l'horizon. Concrètement, un arc-en-ciel se forme lorsque la lumière rencontre des particules d'eau, mais j'ai décidé de le considérer comme le dernier sourire que nous envoyait l'esprit de Lucie. Peut-être que je sais, finalement. Je sors avec quelqu'un. Il est beau, solide, et actuellement au chômage. Karen a licencié Greg il y a 4 semaines. Ses infractions au règlement ne lui laissaient pas le choix, a-t-elle expliqué. Greg envisage soit de reprendre ses études pour devenir infirmier en psychiatrie, comme moi, soit de s'établir à plein temps comme aide à domicile. En attendant, il est occupé à aider diverses familles, et bien sûr, il sera bientôt encore plus occupé à me faire l'amour. Il y a des moments où je suis en colère. Je ne supporte pas qu'il soit aussi facile à un parent de détruire la vie d'un enfant. Je vois encore des cas qui me fendent le cœur. Et je m'arrange encore pour passer bien au large des bouches d'égout. Mais je me lève chaque matin et je me retrouve à faire le même vœu chaque soir. Je vais vivre avec plus de lumière dans mon cœur. Je vais continuer mon travail auprès des enfants en difficulté. Et je vais tomber amoureuse d'un homme vraiment bien. Je suis la seule survivante, et voilà ce que j'avais pour mission de raconter. Note et remerciements de l'auteur. Quand on entend parler d'un élève de cours préparatoire renvoyé pour violence, on se fait souvent une certaine idée de ses parents. Vous savez, ce sont des parents qui s'en fichent, qui ne s'investissent pas, qui sont peut-être même violents. Je suis donc restée stupéfaite il y a 2 ans, quand l'enfant caractériel n'était pas un inconnu, mais le fils d'une amie proche. En tant que parents, son mari et elle étaient aimants, capables et présents, et pourtant ils avaient le sentiment de perdre la bataille pour sauver leur enfant. J'ai une dette envers cette famille qui m'a fait part de son expérience. de leurs séances avec divers spécialistes, de leurs multiples séjours dans une unité de pédopsychiatrie fermée. Et oui, de leur relation avec un guérisseur spirituel dont ils pensent qu'il a fait le maximum pour communiquer avec leur enfant. Ils m'ont raconté leur histoire dans l'espoir de favoriser un regard plus compréhensif sur les enfants malades mentaux et leurs éducateurs, souvent dépassés. Ils aimeraient que vous sachiez que tous les enfants qui ne tiennent pas assis sur une chaise ne sont pas des sales gosses. Que tous les enfants qui ne veulent pas dormir ne sont pas des fauteurs de troubles et que tous les enfants qui hurlent à plein poumon ne sont pas désobéissants. Ce sont des enfants, ils essaient, et leurs parents aussi. Ma profonde gratitude va à Kathy Regan et à son équipe de l'unité d'évaluation pédiatrique de Cambridge, Massachusetts, qui ont inlassablement répondu à mes questions et m'ont permis de passer du temps dans un authentique service psychiatrique. Jamais je n'aurais pu créer mon service fictif, l'UPEC de la polyclinique Kirkland, si je n'avais pas eu la chance de découvrir leur quotidien et leurs méthodes. Mais si je me suis permis de mettre en scène à l'UPEC des méthodes progressistes inspirées par leur formidable travail, la clinique elle-même, son personnel soignant et ses agissements sont le pur produit de mon imagination, tout à fait dérangé, et n'ont rien à voir avec le service d'excellence que dirige Kathy et son équipe. À ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les méthodes progressistes mises en œuvre dans son service, je recommande l'ouvrage « Opening Our Arms, Helping Troubled Kids Do Well » de Kathy Regan, ainsi que « The Explosive Child » du Dr. Ross W. Green pour une approche détaillée de la recherche de solutions par le dialogue. Collaborative Problem Solving. Du côté des recherches plus classiques, une joyeuse ovation à ma pharmacienne préférée, Margaret Charpentier, qui m'a encore une fois aidé à choisir le poison idéal. Cela faisait un moment que nous n'avions pas collaboré. Je crois que le résultat est amusant, comme toujours. Le concours annuel Kill a Friend, Maim a Body. Félicitations à Audie Solis, qui a été sélectionnée pour être notre sixième cadavre exquis. J'espère que votre fin spectaculaire vous a amusé. Et pour que l'autre côté de l'Atlantique ne soit pas en reste, Joe Rhodes a remporté le concours Kill a Friend, Maim a Mate. D'après Eileen Rhodes, c'était le moins que je puisse faire. Pour tous ceux qui voudraient participer, les inscriptions pour le prochain tirage au sort devraient être ouvertes en septembre. Rendez-vous sur www.lisagarner.com pour plus d'informations. Dans la catégorie Petites attentions pour l'auteur, merci à Michael Carr, dont le stylo tient davantage du scalpel lorsqu'il relie un manuscrit. Je n'ai pleuré qu'un petit peu et le livre y a gagné. Toute ma reconnaissance à mes premières lectrices, Kathleen, Barbara et Diana, qui ont comme toujours fait un travail remarquable sur les épreuves. Et pour finir, les grosses pointures. Jamais je n'y arriverai sans Meg, Kate et le soutien de toute mon équipe éditoriale. C'est grâce à vous que la magie opère. Sur le front domestique, tout mon amour à mon patient Marie et à ma fille, pas très patiente, mais toujours adorable. Enfin, je dédie ce livre à la mémoire de Michael Clemens, un homme de bien, parti trop tôt. Tu nous manques.